J'ai mon âme. Bon. Alors là, vous avez ici le verset 20, en haut de la page, nous allons commencer. Vaïkar Moshe et Tishtové Banav, et Moïse prit sa femme et ses fils, Vaïarkivem à la Hamo. Et il réalise ce geste, je paraphrase, de les installer sur l'âne, de les faire chevaucher l'âne, littéralement. Alors, on va être occupé pendant tout ce paragraphe, qu'est-ce que c'est que cet âne, okay. Et avant d'y arriver, nous allons d'ailleurs passer par Rashi avant le Maharal, alors je voulais signaler ceci. Admettons par postulat que ce qu'on va nous dire de Moïse est déjà acquis pour Moïse, qui est capable de l'iot rochev al hamor, qu'il est capable de dépasser la matière, qui sera le thème de l'analyse du Maharal. Mais ici, il y a l'initiative par laquelle il prend sa femme et ses fils et leur donne cette même prérogative. Mais le chidouche du verset, c'est que pas seulement Moïse, comme Abraham, comme on va nous le citer, est capable de subjuguer ce qui représente la matière, c'est-à-dire leur amour, l'âme par excellence, mais il fait participer à cela sa femme et ses fils. C'est le chidouche du verset, c'est clair. Sinon, qu'est-ce que nous avons besoin de savoir? Que la femme et les fils de Moshe ont voyagé sur le même âne. C'est clair. Bon. Et quelle est l'indication qu'il y a là?
C'est une maturation parallèle.
Oui, mais aller plus loin. L'indication du verset est très simple à comprendre. Cette prérogative qu'a Moïse, et que le Maharal va nous expliquer en détail, qu'il est capable de subjuguer l'âme. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir en détail. Eh bien, le texte nous dit que pas seulement lui, donc, et ça va de soi, c'est même pas indiqué que lui voyage sur l'âme, mais il y fait participer sa femme et ses fils. Ça, c'est le chidouche formel du verset. L'information que le verset nous donne. Maintenant, l'enseignement que cela veut véhiculer. Ici, il s'agit de sa femme et ses fils. Ah, c'est une famille particulière, la famille Moïse, quand même. Pardon ?
Pour l'unité de la famille.
Oui, mais pour l'unité de la famille, mais vous avez tout de suite un problème très général. Ce n'est pas n'importe quelle famille. Ma, qu'est-ce que vous voulez dire?
Abandonner le matériel.
Non, ça c'est de un peu Moussa.
Vaïkar, il a pris, c'est pas de même.
Oui, il décide, il prend l'initiative. Il y a ici une sorte de nouveau mariage. Vaïkar, c'est toujours le mariage. Okay. Et l'initiative de faire participer sa femme et ses fils à ce qui est sa prérogative à lui, de chevaucher l'âme.
Une séparation.
Au contraire.
Non, c'est une association déjà de...
Parce qu'en fait, il les prend deux quelque part, donc il
sépare. Ah oui, il les sépare de l'antérieur, très bien. Oui, d'accord, j'ai pensé à l'envers. Mais qu'est-ce qu'il y a comme dévoilement ici? Mais c'était précisément la tentation de Moïse. Qu'à partir de sa femme, Sippora, et donc de sa descendance,
il crée quelque chose.
De créer un peuple qui remplacerait Israël. Vous vous rappelez de l'épisode précédent. Vous voyez? Donc le chidouche est important. Ça veut dire que...
Il en avait la possibilité. Il avait la possibilité de créer un peuple...
Un pseudo-Israël. Cette fois que nous avons étudié ça, mais... Moïse a eu une tentation, si j'ai fait allusion hier. Moïse a eu, 40 ans avant, une tentation d'abandonner la société des Hébreux parce qu'il en a été déçu et de fonder un autre peuple qui serait le véhicule de la réalisation du projet du Créateur à travers les valeurs hébraïques des patriarches hébreux eux-mêmes. Vous comprenez? Et alors, Dieu est contre. Finalement, en fin de compte, Moïse comprend que Dieu est contre, qu'on ne peut pas. On ne peut pas changer. Et c'est ce que j'ai cité hier. les promesses sont sans repentance. Attendez, je vais terminer. Et alors, ça veut dire qu'il les hébraïse. Il leur donne cette prérogative abrahamique que seuls les Hébreux vont garder, subjuguer le Hamour. Alors que même Ishmaël restera au niveau du Hamour. Vous vous rappelez, au moment du sacrifice d'Isaac, chez vous, la Chempo, Ima Hamour. Voilà, ça va mieux.
Oui.
Ça, c'est le contenu donc du Chidouche du verset. Maintenant, nous allons étudier le Maharal, l'expression elle-même. Yot Rochev al Ha-Hamour. Et le Maharal va, une fois de plus, partir de Rashi. La question que porte Rashi porte sur le He de Ha-Hamour. C'est un âne particulier. Donc, lequel ? Alors, Rashi d'abord, et ensuite, tout de suite, le Maharal. Alors, Rashi, vous l'avez là, au début de Rashi, toujours dans votre page, al Ha-Hamour. À la fin de la première ligne, ça commence. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un peu de lumière ? Voilà, ça va.
Hamour, hein, c'est ça.
Alors, je vous lis Rashi, oui. Suivez. Vous voyez, vous avez Rashi là. Al, ça commence à la fin de la première ligne de Rashi.
Al, a.
Al, a. Hamour. Sur l'âne. Hamour, hameyuchad. C'est un âne particulier. Hamour, hameyuchad. Il y a un yichoud. Ça veut dire une caractéristique qu'il est seul à avoir. Quoi ? Roua Hamour, chez Havash Abraham, le Akedat Yitzhak. C'est cette âme que Abraham avait chevauché, entre guillemets, au moment du sacrifice d'Isaac. Vehu chez Ati, Melech HaMashiach, le Igalot Allah. Vous voyez, tout de suite, on va à l'essentiel. Et c'est sur cette âme que le Messie se dévoilera, d'après le verset de Zacharie. Au chapitre 9, Ani Verochev, comme il est dit, il viendra Ani Verochev à la Hamour. Humble et chevauchant l'âme, avec toujours, chaque fois, ce hé de l'article qui montre que ce n'est pas n'importe quelle âme. Vous voyez donc, on va se dégager de cette imagerie habituelle que c'est sur un âne, symbole d'humilité. Non, c'est pas sur un âne, symbole d'humilité. C'est sur l'âne par excellence, et qu'est-ce que c'est ? Et cet âne-là, on l'a vu chez Abraham, on le voit chez Moïse, là où il y installe sa femme et ses fils, et puis on le verra avec le Mashiach. Et le Maharal va nous donner la source de Rashi lui-même, qui est dans le Réchit Rabba. Cet âne va nous dire la Midrash, il est préparé pour cela depuis la création du monde, la veille du Shabbat. Alors on aborde tout de suite le Maharal. Voyez donc quelle était l'indication d'exégèse pure qu'avait donné Rashi. Ha Hamour, ce hé est à comprendre. Ça y est, c'est clair ? Alors, on y va. Dans le Maharal, maintenant. Mashama est le fait que le verset est dit « Vaikach Moshe et Pichlo et Banat » et Moïse prit sa femme et ses enfants « Vaikhi ve Malachamo » et il les a installés sur l'âne « Vehe Ayedia » avec le « He » de l'article « et aussi « Vehi lo hayalo gamal » Est-ce qu'il n'avait pas un chameau chez Issaï Tishtové Banar pour lui faire porter sa femme et ses fils? Ça veut dire que ça nous renvoie à une autre dimension possible. Être chevauchant le chameau, c'est encore autre chose. Ce n'est pas le thème que nous avons, puisque nous avons celui de l'âne, mais ça veut dire qu'il y aurait tout un séminaire à faire sur le chameau dans la vie. Et de la même manière qu'il y a un thème de l'âne dans la vie. Jacob, lui, lorsqu'il a installé sa femme et ses fils, c'était sur un chameau. Il dit, ainsi qu'il est écrit, Bréchit la Madala, au chapitre 31 de Bréchit, verset 17. Vaïkar et Bana avec Nachar, et pour Jacob, c'est les fils d'abord et ses femmes après, tandis que pour Moïse, c'était sa femme d'abord et les fils après. Vaïsa Otam à la Gemalim, et il les a Vaïssa, c'est plus Vaïarkivé, Vaïssa, sur Ossé, Nassau, élevé, sur les chameaux. Simplement une petite indication, je n'ai pas préparé ce thème du chameau, et je pense que ce chameau nous accompagne aussi, et que nous l'avons vu de notre temps, avec Gamal Abdel Nasser, vous voyez qu'il s'appelait chameau, mais c'est le thème de Gmilut Hassadis. Le verbe change, le véhicule change, c'est autre chose. Alors, à ce propos, Amrou, vous voyez la question du Maharal, il se passe quelque chose avec l'âme. Amrou et Pirkei Rabbi Eliezer. Dans les Pirkei Rabbi Eliezer, au chapitre 31, Amrou Sham, on en a parlé là en disant que lorsque le texte qui nous occupe, du verset 20 du chapitre 4 de l'Exode, Vayarchive Malachamo, que Moïse a installé sa femme et ses filles sur l'âne, Hu Hahamo, c'est ce même âne chez Rachav Alav Abraham Avinu, sur lequel notre père Abraham avait chevauché, dirtib, ainsi qu'il est écrit dans Genèse 22, 3, Vayahavosh et Hamoro, et il sangla son âne. Et vous vous rappelez que là-bas, il y a une différence avec Bilam. Vous vous rappelez?
Oui.
À ce propos. Bilam, c'est une ânesse. Alors que Abraham, c'est un âne. Bon, c'est encore un autre thème, mais je referme la parenthèse. Je continue dans la citation de Pirkei Rabbi Eliezer. Mais où a Hamour chez Atidil Chovala Melech HaMashiach? Et c'est cette âne que le Messie est destiné à chevaucher. Dirtib, d'après le verset de Zacharie, chapitre 9, verset 9, Ani verochev ala Hamour. Humble et chevauchant sur l'âne. Et non pas sur un âne. C'est clair? Et d'ailleurs, nous savons que, d'après la tradition, cet âne doit être rouge. Pourquoi la vache rousse, non, c'est pas la même. Pourquoi? Parce que ici, nous allons étudier ce terme de Hamour qui nous renvoie à Homer. Homer, c'est la matière. Et Hemar, la même racine, c'est rouge. La couleur rouge, et en particulier le vin rouge aussi, s'appelle Hemar. Vehu Hamour, Shenivra Ben Hashemashot, et c'est l'âne qui a été créé. C'est une des 10 choses qui ont été créées, Ben Hashemashot, le crépuscule, entre le 6e jour et le Shabbat du commencement. À la fin du 6e jour, et donc au début du Shabbat de la création, ça s'appelle Erev Shabbat Ben Hashemashot, la veille du Shabbat au crépuscule. C'est encore la fin du 6e jour, mais c'est déjà le début du 7e. Et parmi les 10 choses qui ont été créées à ce moment-là, c'est cette âne qu'on retrouvera avec Abraham, avec Moïse et avec le Mashiach. Bon, 4 indications donc. Erev Shabbat Ben Hashemashot, Abraham, Moshe, Mashiach. Alors je crois que la meilleure des analyses, c'est de suivre l'analyse du Maharal lui-même. Et si à la fin du paragraphe il reste des questions, on les verra, mais lisons ensemble. Veyesh Litmoar Meot Vazé. Il faut beaucoup s'étonner. On ne sait pas de quoi, mais il faut beaucoup s'étonner. Mashkatou. Quelle différence y a-t-il? Vous avez même chiffre. C'est Maïchna, quelle différence y a-t-il? Hamour ze Misha Hamori. Entre cet âne que des autres ânes. Vechi ou Yoter Hashu, en quoi serait-il plus important? Chez El Safek, parce qu'il n'y a aucun doute, regardez l'humour du Maharal, il n'y a aucun doute, chez Behema Aïta, que c'était une bête. Ou Behema Ahad, que Moachere était une bête, c'est comme une autre. Il veut nous dire, premièrement, tu sais, peu importe cet âne. Parce qu'un âne, c'est un âne. Donc, ce n'est pas ça le problème. Et encore, et surtout, la manivra, Bécheshetim et Bereshit, pourquoi a-t-il été créé au 6 jours de la création? Vélo lakar, Shea Hamo, et pourquoi n'a-t-il pas pris n'importe quel autre âne? Le symbole aurait été le même. Si ce n'était qu'un symbole, et vous savez que ça veut dire un symbole, c'est un sens qui s'appuie sur une réalité. Et la réalité n'a aucune importance. C'est cet âne plutôt qu'un autre. Le symbole est important. Vous suivez? Il dit non, c'est l'âne qui est important. Bon, premièrement, on nous dit l'âne n'a aucune importance. Deuxièmement, on nous dit non, c'est l'âne qui est important. C'est pourquoi le Midrash nous a dit cet âne-là a été créé. Alors il faut comprendre que ça veut dire qu'il a été créé le crépuscule du 6e jour au soir. C'est clair? Bon. Aval, Raza, oui. Mais nos maîtres. Sont allés très loin dans leur sagesse ici. Les galotes matspune à Hamour pour nous révéler la vie intérieure de cette âme. Matspune, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la conscience, ce qu'il y a caché littéralement, les secrets de l'âme. Matspune à Hamour, c'est joli comme expression. Velama be'elush lo shadavka. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi pour ces 3 personnages-là, Abraham, Moïse, le Messie. Shem, Abraham, Moshe, Mashiach. Ketiv, Sherachvu, Al-Havo. Il a été écrit qu'ils ont chevauché un âne. Dans, sache, qui colle Rechiva. Ce terme de Irko, Rechiva. Non, non, chevauchement, ça me gêne, parce que c'est un cheval. Comment dire Oui, bon, vous avez compris en hébreu. Vous m'aurez, cela indique. Ah, le fait que chez Arochev, celui qui chevauche, Nivdal Minasher Rochev, ne fait pas corps avec ce qu'il chevauche. Il est séparé. Le fait de dire qu'il y a Harkava, dans le sens philosophique, ça veut dire qu'il y a complexité. Ce n'est pas le même élément simple. Je pense maintenant à cette figure mythologique, le centaure, mm-hmm. Vous voyez un homme qui fait corps avec son cheval d'Afka. Et ici, non, il ne fait pas corps. Et il, c'est sa monture, mais cela indique qu'il le monte et qu'il est différent de ce qu'il monte. Bon, voilà l'idée. Umit ale ala. Et il s'élève au-dessus. Mit ale, il est plus haut en lui. Qui met à har chez Urochev ala. Par le fait qu'il chevauche cela. Mit nase ala. Il subjugue. Il est plus haut. Veeno metsura. Et il n'est pas Metsuraf. C'est plus Metsuraf. Mais quand par exemple en orfèvrerie, on fait une soudure entre deux.
Fusionné,
il n'est pas soudé à lui. Metsuraf, ça veut dire mélangé. Bon, mais c'est intraduit. Metsuraf,
fondu.
Ça veut dire fondre ensemble dans un même creuset. Bon, vous avez compris l'idée. Vechaaché, Ratsa, Kadosh Baruch. Et lorsque Dieu a voulu, les Agdil et Abraham et Moshe, élever les Agdil, donner la grandeur à Abraham et à Moïse, l'Oït Nassoud, chez la Melachim, pas cette grandeur que possèdent les rois, chez Mit Nassim, Rouvatam ou Berochram, qui ne s'élèvent des autres que par leur vaillance ou leur richesse, Aval, Mit Nassoud, mais cette élévation, Mit Nassoud, Ma'ala Kedosha, qui implique une qualité de sainteté sainte, de séparation d'avec le reste. Et ça signifie qu'ils étaient près de l'être divin, de la manière divine d'être. Et là, nous touchons le fond du problème. Ça veut dire que, quel est le cas particulier d'Abraham et de Moïse? C'est que d'eux a été dit qu'ils étaient divins. Et qu'il faut prendre ce terme à la lettre. Hein? Mais regardez bien ce qui est dit. C'est le mot Elohim qui est employé ici. Okay? Et j'y reviendrai parce que c'est le fond du problème. Ils étaient divins de cette divinité que Dieu a mise dans le monde. Est-ce que c'est clair? Je suis clair. Pas de la divinité de Hachem, mais de Elohim. Nathan Naem, Akadosh Baruch Hu, alors il leur a donné, Dieu leur a donné, l'Iyot Rochvi Malachamo, ce privilège, cette capacité, cette prérogative de pouvoir dépasser. Là, c'est-à-dire dépasser la matière. Chez Zemoré, chez Urochev, à la Homrigout. Vous avez écrit Homrit là. Je vous propose d'ajouter un verbe. À la Homrigout. Cela indique qu'ils sont dépassants, subjugants la matérialité. Mitnase alav. Urochev alav. Les filles chez Ur Nildal, Minahome. Bien. Et jusque-là, alors je voudrais reprendre un peu ce terme de Krovim el Ma'ala Elohim. Vous voyez la prudence de l'expression. Le Maharal ne dit pas ici qu'ils étaient vraiment Dieu. Divin, excusez-moi, pas Dieu, divin. Mais près de ce niveau de la divinité. Alors que du Messie lui-même, il sera dit, c'est le troisième, qu'il est lui-même divin. Bon, alors là, il faut parler longuement jusqu'à ce qu'on ait essayé de comprendre, mais en distinguant des thèses chrétiennes à ce sujet. Vous comprenez? Je ne sais pas comment, si aujourd'hui je serais inspiré pour le faire, sinon ça sera bien. Mais il faut qu'on arrive à le comprendre. Je vais essayer de passer par une exégèse un peu assez simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous prenons l'enseignement de la création que nous donne la Bible au sérieux, que c'est Dieu qui a créé le monde, Alors, le monde que Dieu a créé ne peut être que destiné à être divin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Essayons d'enfermer ça dans une formule brutale. Qu'est-ce que Dieu crée ? Il crée Dieu. Et alors, nous sommes dans une phase transitoire où l'être du monde acquiert le mérite de devenir l'être vrai, c'est-à-dire Dieu. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Oui, pour... Non, c'est pas clair, c'est très difficile, mais essayons de nous approcher. Oui, à quel point nous sommes handicapés par le vocabulaire chrétien, mais sinon ce serait très facile. Pour la mentalité hébraïque, ça va de soi. Ça va de soi que la créature est destinée à devenir divine, mais dans le sens adjectif. Pas Dieu, le créateur. Pas cette manière d'être Dieu qui est celle du créateur. Mais cette manière d'être divin de la créature. Est-ce que c'est clair ? Et j'ai fait un peu allusion hier en disant que la notion de créature, de créer, comme nous l'avons appris hier, c'est d'être fils du Père qui est le créateur. Et alors, fils de Dieu, c'est clair en hébreu. Mais Dieu le Fils, ça c'est une catégorie païenne. Vous voyez la différence ? Et je crois que les chrétiens n'arriveront jamais à se sortir de cette espèce de balagan de vocabulaire. Hein ? C'est-à-dire, ils pensent en grec une donnée hébraïque. Et tant qu'ils n'arrivent pas à se dégager de cela, on ne peut pas se parler, parce qu'on emploie les mêmes mots, mais ça renvoie à des choses opposées. Un musulman comprend mieux cela. Mais avec un chrétien, on n'arrive jamais à employer un langage suffisamment clair. Vous comprenez ce que vous dites ? Lorsqu'un musulman dit que une manière d'être de la créature réussie, eh bien c'est divin. Ça reste cachère. Il n'y a rien de païen là-dedans. Il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sacré dans le sens païen. Okay? Mais dès qu'un chrétien dit cela, alors non, on a le frisson du paganisme qui apparaît. Okay? Je ne sais pas comment on appelait ça en langage de sacristie, les odeurs vertes. Le satanique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'attribuer à la créature la prérogative de divinité du créateur. Maintenant, dans la catégorie qualitative, il est bien évident que la conscience d'un croyant de la Bible ne peut pas admettre une autre éventualité. C'est que Dieu a voulu créer un être vrai, donc divin. Il y a... Alors voilà, le mot qu'il faudrait employer, mais il est faux, ce serait consubstantialité. Mais ce n'est pas du tout cela. Il y a une essence de divinité et donc de sainteté en Dieu et en l'homme. En l'homme, elle est à acquérir, et voilà les étapes. Abraham, Moïse, le Messie. Vous voyez ? Alors que il ne s'agit pas du tout que une créature soit l'incarnation du Créateur. C'est ça la vie. Et là, il y a un abîme. Alors, vous voyez, bien que le vocabulaire soit très, très, très convergent, en réalité, cela renvoie à des notions radicalement séparées. Est-ce que je suis arrivé à éclaircir
la différence entre Elohim et Hachem ?
Ah, bien sûr. Le texte de la Genèse dit que nous sommes créés Betselem Elohim. Il n'y a pas écrit que nous sommes créés Betselem Hachem. C'est vrai aussi, mais plus tard, on apprendra. C'est autre chose. C'est Hachem qui se dévoile en Israël. Mais ça, c'est le cas particulier d'Israël. Maintenant, nous sommes dans la catégorie de Elohim. Alors voilà pourquoi le texte peut dire d'Abraham qu'il est Nessi Elohim. Quand les Bnechet lui disent Nessi Elohim atabek Israël. Pourquoi le texte peut dire de Moïse Isha Elohim. Vous voyez, c'est déjà plus haut. Isha Elohim. Et pourquoi, comme nous allons le voir, le verset dira tranquillement du Mashiach qu'il est Elohim. Parce qu'il est le premier exemplaire sorti de la matrice d'Israël qui réalise le programme de la Elakut, du Einyan Elohim dans les catégories de Judas Lévi. Est-ce que c'est clair jusqu'à là ? Et vous voyez que, de nouveau, de la même manière que saint, c'est pas le sacré, okay, kadosh, c'est pas le sacerdoce romain devenu le sacré français, et ça c'est une catégorie magique, okay, et païenne, c'est autre chose. De la même manière, la divinité d'Israël n'est jamais pensée à la manière dont le chrétien pense la divinité de son Christ. Et pourtant, le vocabulaire est très proche. Israël est appelé fils de Dieu. Et non seulement ça, son fils aîné. Okay? Et, mais Dieu le Fils, c'est déjà toute autre chose. Et d'Israël, on dira qu'il y a dévoilement de la divinité en lui. Quelle divinité ? Celle que le Créateur s'est proposé de donner à la créature, mais non pas la divinité du Créateur lui-même. Bon, si on a réussi à le comprendre, on peut avancer. C'est suffisamment clair ? Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Simplement une phrase. Oui, au fond, c'est en cela que les chrétiens croient, que l'être juif est divin. Mais ils le croient dans une catégorie mythique et magique. En récapitulant, cette divinité d'Israël, dont parle Judas Lévi dans le Hagana Eloki, sur une figure mythique d'un personnage mythique. Et où est le mythe ici ? C'est lorsque l'individu remplace la collectivité. Les psychologues diront que c'est un syndrome classé. Quand quelqu'un se prend pour une collectivité, ça fait partie des formes de la paranoïa. Bon, c'est notre problème. Ça y est, c'est clair ? Se prendre au sérieux. Je ne sais pas si vous réalisez pas, juif.
Aussi bien dans le bien que dans le mal.
Bah, absolument. Et c'est pourquoi je vous dirais, et souvent ce personnage n'est pas juif. Vous comprenez ce que je veux dire ? Même pas au niveau de la maladie mentale. Parce qu'il reste toujours un petit clin d'œil. Or, il n'y a pas de clin d'œil dans les évangiles. On se prend au sérieux. Alors, c'est évident que ce n'est pas juif. C'est grec. Et j'avais donné une fois cette illustration, je vous la rappelle pour détendre un peu l'atmosphère. C'est que il y a. On pourrait faire un peu toute une thèse comme cela, de la différence entre la Bible et les évangiles, et, comme les chrétiens disent l'ancien et le nouveau, et par le passage au sérieux. Et il y a deux récits qui se ressemblent beaucoup, c'est l'annonce faite à Marie dans les évangiles et l'annonce faite à Sarah dans la Bible. Ça se ressemble beaucoup, vous avez remarqué. Qu'est-ce qui se passe dans l'annonce faite à Sarah ? Elle rit. Alors ça, c'est sérieux. Tandis que dans l'annonce faite à Marie, elle croit. Ça, c'est pas sérieux. Vous vous rendez compte ? Elle se prend au sérieux. Là, il faut être fou. Voilà, c'est ça la réaction que la sensibilité juive et musulmane a vis-à-vis de ce mythe. C'est la réaction devant la croyance païenne. C'est le paganisme qui entre là-dedans. Est-ce que c'est clair ? D'autant plus que Maïmonide, pardon, Nahmanide, a dit très finement que la Bible, notre Bible, nous raconte des miracles encore plus extraordinaires que ça. Mais elle y fait allusion comme ça entre deux versets. Par exemple, la mère de Moïse. La mère de Moïse a été revirginisée à l'âge de 120 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça dépasse tout. Bon, ben, c'est pas ça l'objet de la croyance. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, c'est pas de ça que la Bible s'occupe. Bien sûr que ça a existé. Et alors, on va faire une religion avec ça, nous ne sommes pas des païens. Bien. C'est-à-dire, on enseigne cela qu'à ceux qui sont capables de comprendre, pas à ceux qui se borneraient à croire, parce que ça en fait des païens. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit ? Comme me disait mon maître, là où il faut croire, il ne faut pas comprendre, mais là où il faut comprendre, il ne faut pas croire. Il faut comprendre. Bien. Mais nous sommes capables d'un miracle aussi énorme à l'échelle collective. Voilà. La société d'Israël, qui pendant 2000 ans a été stérile, apparemment, vous avez lu Renan, l'histoire du peuple juif de Renan ? Non. Eh bien, lisez à la fin, il y a un paragraphe à la fin, où Renan se désole de ce qui est arrivé à ce peuple, qui aurait pu être fécond encore, et puis qui n'est devenu qu'une souche morte, parce qu'il a raté la bifurcation chrétienne. Quelque chose comme ça, on ne veut pas en détail. Alors pendant 2000 ans, apparemment la société juive est stérile, subitement elle est revirginisée et féconde. C'est cette histoire. Seulement nous la vivons à l'échelle d'une collectivité. Alors ça c'est sérieux parce que c'est l'histoire, et l'histoire de la collectivité. Mais quelqu'un qui viendrait dire, eh bien ça c'est moi, bon, on sait où il faut l'envoyer. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans une terre d'asile. Ça y est, c'est ça le coup. Et c'est un peu d'ailleurs l'éclat de rire de la naissance d'Isaac. Alors effectivement, Sarah, c'est une bonne juive. Elle sait comment il faut réagir. Elle rit. Et d'ailleurs, il y avait de quoi être content. Alors elle a ri. Mais se mettre à genoux et se mettre à chanter le Tédéum, ça c'est pas bien. Hein? Ah, c'est le Magnificat. Donc, je sais pas, depuis que je ne compte pas la rue de la Victoire, c'est pas. Alors voilà, ce qu'il faut noter donc dans l'analyse du Maharal, c'est qu'il y a à ces trois niveaux, Abraham, Moshe et le Mashiach, il y a cet exposant de Elohim qui apparaît tout de suite. Et c'est ça, Rochev, alors. Alors, avant. Onam, im haya rochev al-hamor stam. Cependant, et il s'agit simultanément d'Abraham, de Moïse et du Mashiach ici, s'il ne chevauchait qu'un simple âne, en zedava, il n'y aurait rien d'étonnant. Ki akadosh baruch hu, haya rotse l'agviam al-kola ala magash. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a voulu les élever au-dessus du monde matériel. Alors, bien sûr, ils ont chevauché un âne. Mais ce que la Torah veut nous faire comprendre dans le sens de l'événement, c'est qu'ils étaient aptes à chevaucher l'âne par excellence. C'est-à-dire à être surhaussés au-dessus du monde matériel, c'est-à-dire de la détermination du monde matériel, de la loi du monde matériel, et de ce que nous appellerions, en termes scientifiques, si vous voulez, le déterminisme. Et de ce que, en termes religieux, enfin théologiques, du paganisme, on appellera la nécessité, là, finalement, la fatalité. Et vous voyez que c'est assez parallèle. Précisément, cette notion de destin qu'on ne peut pas surmonter est très parallèle de ces religions à mythes qui divinisent la figure mythique de ce qui est objet d'adoration, et puis l'adorant, le croyant, lui est rejeté au destin. Uminayin, atamotse, sheayu eloshloshtan mitnaseim ala olam. Et où trouves-tu que ces trois, c'est-à-dire ces trois personnages, Abraham, Moïse et le Mashiach, sont surhaussés au-dessus du monde, et c'est-à-dire du déterminisme du monde, chez Haré d'Archouzal? C'est que nous trouvons un premier enseignement de nos maîtres dans Bereshit Rabba, qui, quel est celle Abraham? À propos d'Abraham, nous avons le verset Genèse, chapitre 15, verset 5. Vayotse oto achoutsa, et Dieu le fit sortir en dehors. D'après un contexte non averti, ça voudrait dire qu'il l'a fait sortir en dehors de sa tente pour lui demander de contempler les étoiles et lui dire si ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. Mais le Midrash se base sur le verbe employé dans le verset. Habet na hashamayma, contemple le ciel. Or, toujours en hébreu, habet, c'est contempler de haut en bas. Et donc le Midrash, habet, ça veut dire contempler, comment dire, de supérieur à inférieur. Et par conséquent, ça veut dire que Dieu a fait sortir Abraham de la détermination du monde et il lui a dit, regarde de haut en bas les étoiles, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ça veut dire qu'il a fait sortir, le Midrash dit, de son thème astral, c'est-à-dire de sa détermination de destin. Là, juste là. Donc. Chez Oti Oto, Chutz Michalalo Shel Olam. Il l'a fait sortir... de la sphère du monde, halalo shel olam, ici avec allusion de ce qui est privé de sainteté, hol. Vechen darshu ve'shemot rabba, et aussi par rapport à Moïse. Nous avons cet enseignement dans la parasha de Bo, c'est sur le verset Exode, chapitre 10, 21. Notez bien la référence parce qu'il y a un autre verset qui ressemble, mais ce n'est pas celui-là à propos duquel on va nous donner cet enseignement. Et regardez Rashi. Dans la paracha de Vaera, nous dit le Maharal, Al Moshe, à propos de Moïse, Nete Yadcha al Hashamayim. Étends ta main, littéralement, il faudrait traduire vers le ciel, lorsqu'il a fait les miracles et les dix plaies, Étends ta main vers le ciel, mais il y a écrit, étends ta main sur le ciel. C'est-à-dire que Abraham était capable de dépasser la détermination naturelle, matérielle, Moïse était capable de dépasser la détermination matérielle, mais la même. Ça nous enseigne, chez lui, à être Moshe le Mala Mishamaï, que Dieu a surhaussé Moïse au-dessus du ciel. Et nous apprenons de là, chez Elouchneel, que ces deux, Abraham et Moïse, Ayou Moshlim Alaolam, qu'ils dominaient la détermination du monde. C'est moi qui ajoute le terme de détermination, mais vous comprenez quelle est l'idée. Agashmi, matériel, réunis d'Alimimim. Et ils étaient séparés de lui. Reprenez le Kuzari. Lorsque le Kuzari parle de Moïse, il en parle comme étant cette manière d'être créature qui est déjà dégagée des conditionnements matériels, de la détermination des lois, qui font fonctionner le monde en cours de fonctionnement, en tant que le monde est cette matrice dans l'endrement de l'être vrai que Dieu voulait créer. Je reviens à l'analyse de tout à l'heure. Et la conscience d'un croyant de la Bible ne peut pas se satisfaire de l'état de la créature dans ce monde-ci. C'est en contraste blasphématoire avec ce que nous savons des promesses du Créateur. Vous comprenez ce que j'essaye d'exprimer là? Et alors, c'est pourquoi le Maharal, dans le Kuzari, nous dit que Dieu ne se définit pas lorsqu'il donne la Torah, au début des 10 commandements surtout, comme étant celui qui a créé le ciel et la terre, mais comme étant celui qui a fait sortir Israël d'Égypte, c'est-à-dire qui a brisé les conditionnements naturels. Et le Maharal explique, nous sommes très différents de tous les théologiens. Notre foi ne se base pas sur une métaphysique théologique. Elle se base sur des événements historiques par lesquels nous savons que l'homme peut dépasser les conditionnements naturels. Et donc il y a un créateur du monde à venir. Et que nous sommes destinés à ce monde à venir. Que c'est ça notre foi. Vous voyez à quel point c'est différent de contenu et de qualité, de ferveur, d'expérience spirituelle, que tout ce qui peut être une foi basée sur une théologie philosophique ou métaphysique. C'est ce que le Kuzari dira au roi des Khazars. Tous les théologiens qui ont interrogé ont commencé par te dire « Nous croyons à la cause première ». Dit, c'est vrai que Dieu est aussi la cause première, mais ce n'est pas par ce cheminement-là que nous sommes reliés à lui. Nous sommes reliés à lui par la révélation qui a eu lieu à la sortie d'Égypte et nous avons vu, en expérience historique, que les conditionnements du monde peuvent être brisés pour une collectivité entière. Et l'exemple, c'est la vie exemplaire de Moïse. Et regardez à quel point cette foi hébraïque est épurée de tout paganisme. Eh bien, n'importe quel peuple aurait fait de Moïse une super divinité. Par ce que nous savons de son histoire, il n'y a aucune trace d'un culte à Moïse. C'est ça la grandeur du peuple. Mais ça commençait avec Abraham, à l'échelle individuelle. Alors, c'est donc cela qui est indiqué dans l'élection d'Israël. Elle est indiquée en Abraham, elle est indiquée en Moïse, elle sera indiquée au niveau du Mashiach, nous y arrivons. C'est un peuple qui n'est pas soumis aux lois qui régissent les sociétés humaines. En tant que collectivité, en fin de compte, c'est visible. Sauf pour ceux qui ne veulent pas le voir. Parce que ça donne le vertige. Mais c'est un peuple dont l'histoire ne se réduit à aucune des règles du fonctionnement déterminé des sociétés humaines. Et la mémoire de ce peuple garde le souvenir des événements où nous avons eu l'exemple de cela. Non pas sous forme d'objet de croyance, mais sous forme de réalité historique concrète qu'effectivement la société d'Israël vit au niveau concret de son histoire de collectivité. Bien. Vezehu haya etzem ma'alata. Et c'est cela l'essence de leur qualification supérieure. Ulcha chayu rochvim alachak. Et c'est pourquoi il chevauchait un âne. Bon, on redescend au niveau des termes. Chez Nibra ben Hashem Hashod, un âne, pas n'importe lequel, celui dont nous dit le Midrash, un âne qui a été créé au crépuscule du septième jour. Qui, mais achar shayu rochvim al hamor, chez Nibra ben Hashem Hashod, par le fait qu'ils étaient capables de chevaucher cet âne du crépuscule, ou Bria ben Hashem Hashod, et à la Terre. Une création qui a été faite au soir du septième jour, du commencement, ça veut dire une création qui est surnaturelle, qui est sur la nature, au-dessus de l'ordre naturel. Mais comment le comprendre? Comment faut-il le comprendre? Qui animera Bécheshitim et Bécheshit? Ce qui a été créé dans les six jours de la semaine du commencement. Les fichés, Miemechol, qui sont les six jours profanes, ce qui a été créé là pendant les six jours est donné à devenir l'être naturel absolu. Aval ben Hashem Hashod. Mais entre ces six jours et le Shabbat, dans ce crépuscule de transition, par le fait que dans ce temps-là de crépuscule, Ksat Chol ou Ksat Kodesh, c'est un peu encore relié au temps profane, mais c'est déjà relié au temps de sainteté, c'est-à-dire au-delà du conditionnement naturel, mais quand même relié au conditionnement naturel. Cela est indiqué par ce fait que ces hommes qui étaient surnaturels chevauchaient l'être naturel. Ils étaient reliés, mais séparés. Alors c'est cela qu'il faut entendre, que cet âne n'est pas n'importe lequel. C'est l'âne du crépuscule du commencement, entre les jours de la semaine et le Shabbat. Ça a été clair? Alors, Bara Bodvarim, en ce temps-là, Dieu a créé des choses chez Menam Tevar les Gamré, qui ne sont pas complètement soumis à l'ordre naturel. Mais c'est ça le peuple juif, à travers ces images exemplaires qui nous sont données du fondateur, l'engendreur, Abraham, du maître, Moïse, et de celui qui fera réussir ce projet de l'histoire, c'est-à-dire le Mashiach. Eh bien, nous sommes dans la nature. Nous vivons la vie des hommes. Mais pas complètement. Il y a autre chose. Nous participons d'un ailleurs, si vous voulez, que, et c'est ça la foi juive, de savoir qu'il en est ainsi. Et puis c'est une foi, encore une fois, qui s'appuie sur l'expérience de l'histoire, de l'événement concret, et non pas du mythe, d'une croyance. Quelle que soit la noblesse qu'il y ait à croire en cela, c'est pas ça l'être juif. L'être juif, c'est pas l'être qui croit en cela, c'est l'être qui vit cela, c'est l'être qui est comme cela. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais j'espère que c'est déjà suffisamment clair. Enfin, on pourrait dire dans cette formule, qui m'arrive souvent d'employer quand je suis en dialogue avec les chrétiens, que finalement, Israël est ce en quoi la conscience chrétienne est censée croire. Alors, c'est dans deux registres radicalement différents. Là, il y a un phénomène d'existence, et là, il y a un phénomène de croyance. Bon, où est la tension de la foi ? C'est que chacun d'entre nous est un microbe microscopique de l'individu par rapport au cloud. Ce que nous disons là, c'est l'être de la collectivité. Alors la tension de foi, c'est cela. C'est l'effort qui consiste pour chaque individu à faire partie de cette collectivité-là. Et il faut y croire. Mais, vous comprenez bien, c'est second. Et chacun l'exprimera dans son langage de vie privée, d'expérience spirituelle, jamais. Aucun croyant juif n'a proposé comme formulation à la collectivité sa manière d'expérimenter cela. Ça reste chacun avec ses tripes. Vous voyez, on n'a pas de description mamistique juive. Ça n'existe pas. Vous comprenez ce que vous dites? Encore une fois, nous avons un exemple que l'analogie du vocabulaire cache ici, elle est trompeuse, elle cache un abîme de différence. C'est pourquoi d'ailleurs, la seule définition du rachat que nous ayons, c'est celui qui s'est mis en dehors de cette collectivité-là. C'est se mettre en dehors de la collectivité qui consiste à être disqualifié. Ulfi, Sheotzi, et Atzmo, Minakela, Kafar, Vaikar.